munition bunker where the Norwegians have stored heritage.
Pour revenir aux origines du massif hercynien, il faut faire un bond de
90% of blue and red light is absorbed in the upper one-fifth of a spinach leaf.
Le paramètre qui va caractériser l'ordre du système va être discontinu à la fin.
Voilà, 20h57 sur Transistor, mais ça n'est pas fini à cause du petit retard que nous avons pris en début d'émission. Il nous reste encore les sciences, le sport et puis ondes courtes pour une actualité un petit peu retardée de la radio. Mais tout de suite, on passe donc aux sciences avec toi Pierre. De quoi vas-tu nous parler pour ton édito scientifique ?
Eh bien, ce soir, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est qu'un accélérateur de particules.
Oula !
Eh oui, comme tu dis, oula, vaste programme. Mais normalement, vous en avez légèrement entendu parler, alors à moins que vous ne soyez resté dans une grotte pendant toute l'année 2012, évidemment. Je pense que vous avez forcément entendu parler...
Ça a l'air d'être le cas de Léa.
Peut-être.
C'est le boson de Higgs, monsieur.
Eh ben voilà, le fameux boson de Higgs. Comment est-ce qu'on a réussi à mettre en évidence cette nouvelle particule dont l'existence avait été démontrée théoriquement des décennies plus tôt par le trio Brute Englert Higgs? Évidemment, l'histoire ne retiendra que Higgs parce que c'est le nom le plus simple à prononcer. Si vous demandez à quelqu'un dans la rue comment il ferait pour découvrir une nouvelle particule, la majorité des gens vous dirait déjà qu'ils en ont rien à faire. L'autre partie vous dira qu'il suffit de bien chercher pour trouver. Alors certes, il faut chercher, mais où et comment ? Nous savons déjà de quoi est constituée toute la matière qui nous entoure, enfin, on pense. Et même si de nombreuses interrogations demeurent quant à la matière dont est constitué l'univers, il reste une faible marge de manœuvre pour trouver de nouvelles particules. Les physiciens ont donc inventé les accélérateurs de particules.
Quel est le principe de fonctionnement de ces engins, Pierre ?
L'idée qui a mené à la conception des accélérateurs de particules est que si l'on ne peut observer de nouvelles particules dans la nature, alors il suffit de les créer. Mais comment est-ce qu'on crée des particules ? Les physiciens se sont inspirés de notre Soleil. Dans son cœur, la température est tellement élevée que les particules élémentaires fusionnent. Par exemple, deux noyaux d'hydrogène fusionnent en un noyau d'hélium. Petit problème, comment recréer une température de plusieurs millions de degrés en laboratoire ? Eh bien, les physiciens ont eu l'idée d'accélérer des particules à des vitesses proches de celles de la lumière et de les faire se rentrer dedans. Et pouf, ça fait de nouvelles particules. On utilise principalement des électrons parce que ce sont des particules légères que l'on peut donc accélérer sans utiliser trop d'énergie. Bon, enfin, on les accélère quand même à près de 99,9999% de la vitesse de la lumière, je vous rassure, il y avait encore 4,9 derrière. Les particules se créent en vertu du principe E égale mc², selon lequel l'énergie peut se transformer en masse et inversement.
Et du coup, comment fait-on pour accélérer des électrons à une vitesse si élevée ?
Les électrons sont des particules chargées. Donc pour les accélérer, on utilise des aimants. Pas n'importe lesquels, des électro-aimants réalisés en matériaux supraconducteurs pour éviter leur échauffement. Le problème, c'est qu'il faut les refroidir avec de l'hélium liquide. Et quand il y a des fuites, il faut tout refaire. C'est d'ailleurs ce qui a causé un arrêt du LHC de Genève pendant 1,5 an, rien que ça. Pour prendre l'exemple du LHC, encore lui, celui-ci est composé de 3 anneaux, chacun servant à accélérer les faisceaux d'électrons. L'anneau le plus grand a un rayon de plusieurs kilomètres. On dirige les faisceaux d'électrons l'un contre l'autre en jouant sur le champ magnétique, et lors de la rencontre, de nouvelles particules peuvent être créées.
Et une fois que ces nouvelles particules sont créées, comment les détecte-t-on ?
Alors on détecte très rarement directement les particules créées. On détecte en fait généralement le produit de désintégration de celles-ci. Ces nouvelles particules sont très rarement stables et se désintègrent en plusieurs autres petites particules que l'on détecte. La difficulté est de se faire rencontrer les deux faisceaux dans la zone très petite que constitue un détecteur, car c'est le seul endroit où les particules peuvent être détectées. Il faut savoir également que pour annoncer la découverte d'une particule, il faut que l'événement lié à sa désintégration soit au minimum 5 fois plus fréquent que tout autre événement de désintégration, même naturel. Ce facteur 5 semble faible, mais il permet d'assurer presque 100% de chances que le signal corresponde bien à une nouvelle particule. Aujourd'hui, les accélérateurs de particules du monde entier sont utilisés pour éprouver les nouvelles théories en physique fondamentale, comme la supersymétrie, selon laquelle à toute particule élémentaire correspond une autre particule aux propriétés similaires, mais de masse bien plus élevée. Ou alors, ils sont utilisés pour produire de l'antimatière, qui est piégée pour ensuite être étudiée en laboratoire. Ces engins géants sont le meilleur moyen que l'on ait actuellement pour tester la théorie, et ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque de créer des mini-trous noirs qui pourraient aspirer le monde en le désintégrant.
Ouf, l'univers est sauf, merci beaucoup Pierre pour l'avoir sauvé et puis nous avoir expliqué un petit peu comment fonctionnent ces énormes appareils. Il est 21h02 sur Transistor.
C'est pas une crâne.
Vous écoutez le journal radiophonique amplifié de Transistor.
Allez, on fait des petites surprises à la régie. On te retrouve une dernière fois, François-René, pour nous parler de sport ce coup-ci. Rebonsoir, François-René.
Rebonsoir, Rémi.